Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous. La semaine dernière, nous vous avons proposé le premier volet d'une émission dont l'invité était Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Il y a présenté les missions et responsabilités des deux collectivités qu'il dirige dans le domaine de la culture, les budgets qu'elles consacrent à leur action culturelle, ainsi que les établissements et événements qu'elles financent ou administrent directement. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de cette émission que nous vous proposons. Il est dédié à 10 ans de culture à Toulouse, au bilan que fait Jean-Luc Moudenc de son action, mais aussi aux perspectives et aux projets qu'il envisage dans ce domaine. Alors que les contraintes financières s'annoncent de plus en plus sévères pour toutes les métropoles françaises, on retrouve tout de suite le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. La suite de Métropolez-vous avec Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Avant de parler de bilan proprement dit, quels sont aujourd'hui, selon vous, les points forts de l'offre culturelle dans la métropole toulousaine? On pense tout de suite, évidemment, à l'Orchestre National du Capitole et à l'Opéra National du Capitole. Mais il y en a d'autres.
Oui, parce que ce sont l'opéra et l'orchestre, ce sont nos fleurons, nos ambassadeurs premiers. Mais il y en a d'autres, effectivement. À Toulouse, vous avez des musées dont la fréquentation a connu une très très forte progression sur 10 ans. Vous avez également des points forts comme la photographie, avec la galerie du Château d'Eau que nous sommes en train d'ailleurs de rénover et de développer, d'étendre. Nous avons le spectacle vivant, nous avons du théâtre contemporain, nous avons une diversité également d'offres culturelles dans les quartiers. On n'a pas voulu avoir uniquement des grands établissements de rayonnement métropolitain ou même de rayonnement extérieur à la métropole. On a voulu aussi diffuser la culture au plus près de la vie des gens, et donc on a développé des centres culturels de quartier avec par exemple une offre nouvelle il y a quelques années qui a été mise en place. Ce sont les microfolies qui permettent une immersion et l'accès à des expos en virtuel à des publics qui très certainement ne pourraient pas accéder à ces œuvres. Quand je regarde la Cité de l'Espace, la fréquentation a augmenté de 50% en 10 ans. Quand je regarde les abattoirs donc dans le domaine de l'art contemporain, la fréquentation a doublé carrément. J'ai souhaité que l'on ait aussi des spectacles gratuits dans la ville, parce qu'il y a toujours une grande partie des gens qui ne rentrent pas dans les établissements. Donc, si on veut les faire accéder à la culture, il faut que la culture aille sur l'espace public et que celui-ci soit accessible gratuitement. Donc, ça a été le spectacle de la machine en octobre dernier et en 2018. Ce sont aussi des concerts gratuits de l'Orchestre du Capitole. Il y en a eu Place du Capitole, il y en a eu à la Prairie des Filtres, pour que, là aussi, la musique classique, qui n'est pas forcément accessible spontanément à tout le monde, le devienne. Et puis on a créé de nouveaux événements. Le Festival de Toulouse est un festival de musique de qualité, qui a connu 3 éditions, qui n'a cessé de progresser. C'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas. Big Flo et Oli, le Rose Festival, c'est eux qui l'ont créé, avec le partenariat de la Dépêche du Midi, mais le partenariat aussi des collectivités. Et il se trouve que la collectivité qui participe le plus financièrement, c'est nous. Véritablement, nous avons exploré toutes les directions. Pour les enfants, par exemple, pour les élèves qui sont dans nos écoles, les petits Toulousains, on a créé des parcours culturels où les enfants sortent des écoles et vont dans des établissements culturels où leurs parents ne les amènent pas forcément, de manière spontanée. Et donc après, quand ils reviennent chez eux, ils en parlent à la maison. Et donc il y a un effet boule de neige qui se crée, qui est très positif. En 10 ans, il n'y a pas moins de 120 000 visites qui ont été organisées comme cela. Voilà, donc je pourrais continuer. Je pourrais parler des grandes expos avec le succès de l'expo Picasso, le succès de l'expo Nikit Saint-Phal, le succès de l'expo Giacometti, où on a atteint des records. Et là, nous terminons l'expo sur les cathares, qui, par son ampleur et sa qualité, est une véritable première au musée Saint-Raymond et au Jacobin. Et on va dépasser les 200 000 visiteurs, c'est-à-dire plus que toutes les expos que j'ai citées par ailleurs et qui, pourtant, ont été de grands succès.
Et c'est en cela donc que la période 2014-2024 a été une période de progrès pour vous, hein, pour la culture à Toulouse. L'offre qui s'est renforcée, la fréquentation qui a augmenté, la création de nouveaux événements. Alors il y a d'autres choses, il me semble important de souligner, c'est le label aussi qui a obtenu Toulouse, ville d'art et culture, et puis le label évidemment, ville créative.
On a eu trois labels, on a obtenu trois labels sur cette période. Alors effectivement, le label Ville de Musique, hein, qui est un label de l'UNESCO, Ville Créative, Ville de Musique, il n'y a que deux villes en France qui ont été reconnues, et donc nantie par l'UNESCO de ce label, qui reconnaît une vocation musicale, qui est à la fois quelque chose qui dure depuis longtemps, et qui aujourd'hui est pleinement vivant. Mais quand on regarde la scène musicale toulousaine, ben, y a de tout, là aussi. C'est la pluralité dont je parlais tout à l'heure. Il y a à la fois l'Orchestre National du Capitole, la musique classique, et ben, il y a Big Flo et Oli, pour ne citer que ces deux exemples. On a eu également un label il y a quelques mois pour le Métronome, qui est un nouveau lieu culturel que j'ai inauguré il y a presque 10 ans maintenant. Et ce nouveau lieu culturel, donc dédié aux musiques actuelles, a reçu le label SMAC, qui est salle de musique actuelle, qui est un label difficile à obtenir, un label délivré par le niveau national. Et donc, tout ça, effectivement, est une reconnaissance pour Toulouse. Et puis, dans un autre domaine, qui est celui du patrimoine, dans lequel on a considérablement investi, hein, grosso modo, entre 2014 et 2026, on va dépasser les 60 millions d'investissements pour rénover, mettre en valeur, parfois reconvertir notre patrimoine culturel, qui là aussi est à la fois considérable et très éclectique. Toulouse n'est pas faite d'un seul style, contrairement à telle ou telle autre grande ville, avec un choix en particulier de remettre en valeur et de rénover le patrimoine religieux. Et donc, pour tout cet effort en faveur du patrimoine, nous avons reçu le label de ville d'art et d'histoire il y a quelques années. Et puis, dans quelques mois, va rentrer en vigueur une nouvelle réglementation qui va s'appliquer à 256 hectares du centre-ville de Toulouse, qui est une réglementation destinée à protéger tous les éléments patrimoniaux de qualité qui se trouvent, bien évidemment, à Toulouse comme ailleurs, dans le centre historique. Et l'idée, c'est de protéger, d'avoir des règles spécifiques et en même temps de permettre à tout cet espace d'évoluer. Il ne s'agit pas de muséifier ou de figer le centre historique, il faut qu'il soit vivant. Il va y avoir d'ailleurs, grâce à ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, il va y avoir des possibilités financières nouvelles qui n'existaient pas. La possibilité pour des propriétaires de rénover un patrimoine ancien avec des déductions fiscales jusqu'à 400 000 euros. Donc c'est quelque chose qui va être très incitatif, qui va générer des investissements, qui va permettre à ce centre-ville, qui est déjà très vivant, de l'être encore plus, et en même temps de voir son bâti historique rénové de manière beaucoup plus forte. Ça aussi, le patrimoine, c'est un des points forts de l'action culturelle que j'ai souhaité développer.
Ce dont vous parliez, c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur qui va donc être effectif, entrer en vigueur en 2025. En parlant de projet, il y en a un qui avait été lancé il y a quelques années, c'est le projet de classement du centre historique de Toulouse à l'UNESCO. Où ça en est? Est-ce que c'est en stand-by? Est-ce que c'est abandonné? Où en est-on?
Alors effectivement, j'étais dans l'idée d'obtenir un classement spécifique. Et je me suis heurté à plusieurs difficultés. Première difficulté, c'est que les autorités nationales et internationales m'ont fait remarquer que Toulouse bénéficiait déjà de deux classements UNESCO. Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, à travers le classement de l'Hôtel-Dieu et de la basilique Saint-Sernin. Et puis, un autre classement qui est le canal du Midi. Alors évidemment, dans les deux cas, que ce soit les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ou le canal du Midi, ce sont des biens classés à l'UNESCO, qui ne sont pas proprement toulousains.
Au titre de...
On est bien d'accord. On appelle ça des biens en série. Voilà. Donc moi, je voulais quelque chose de spécifique à Toulouse, mais j'ai compris qu'on était déjà considérés comme des enfants gâtés. Et puis par ailleurs, on nous a demandé, justement, ces autorités de patrimoine, au niveau national et international, nous ont demandé d'investir davantage dans les deux biens déjà classés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris des campagnes de restauration et de rénovation à Saint-Cernin. À Saint-Cernin, j'avais fait restaurer il y a quelques années la porte Miégeville. On a restauré tout un pan de mur à l'intérieur de la basilique qui a permis de découvrir une magnifique fresque du Moyen-Âge. Nous achevons la rénovation de l'entrée monumentale de Saint-Cernin. Elle a duré 2 ans et demi. Les vieux Toulousains ont le souvenir peut-être de ces filets verts là, oui, qui étaient disposés et qui retenaient les pierres qui s'effritaient. Donc un investissement considérable. Et puis on a mis fin à ce qui était une anomalie assez honteuse, même si beaucoup de Toulousains ne la connaissaient pas, cette anomalie. C'est que la grande rosace de cette entrée monumentale de Saint-Cernin, qui fait 25 mètres carrés d'un seul tenant, ce qui est rarissime, cette grande rosace, depuis plus de 60 ans, elle était obturée par une structure en plastique. Et donc, j'ai souhaité qu'on organise un concours. Un artiste a été choisi, Jean-Michel Autoniel, qui a fait l'unanimité, y compris avec les autorités religieuses. Et nous avons inauguré le 30 novembre cette magnifique rosace qui illumine Saint-Cernin. Voilà, et puis le canal du Midi, nous aurons dans quelques mois à inaugurer les abords du canal de Brienne, hein, qui fait partie de l'ensemble canal du Midi, canal latéral, canal royal. Et là aussi, c'est une partie d'un grand plan qui va durer au moins une dizaine d'années. C'est la rénovation et la mise en valeur des canaux historiques au centre de Toulouse.
C'est votre projet Grand Parc Canal. Un autre projet qui a pu être à un moment donné envisagé, c'est la construction d'un auditorium à Toulouse pour remplacer la halle au grain. On parlait de l'Orchestre National du Capitole. Certains pensent qu'il faudrait un écrin plus moderne. Ça, est-ce que c'est aussi quelque chose qui reste envisagé aujourd'hui, mais bon, avec les contraintes financières que ont toutes les métropoles, qui est abandonné en tout cas pour quelque temps? Est-ce que vous y songez toujours ou est-ce que c'est définitivement abandonné?
Alors non, moi je ne veux pas qu'on l'abandonne. Certes, c'est quelque chose qui représente un investissement considérable. Des auditoriums à moins de 150 millions d'euros, ça n'existe pas. Et donc, ça ne peut voir le jour que s'il y a une coalition, en quelque sorte, de tous les partenaires publics, à commencer par l'État. Vous n'avez pas un seul auditorium en France qui existe sans avoir été financé de manière importante par l'État. Alors évidemment, il faut fédérer tous les partenaires. Hein, donc l'État, la région, le département, la métropole. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que nous avons, en accord avec l'État, nous avons conduit la démarche. L'idée, c'était de créer un auditorium dans le site de l'ex-prison Saint-Michel. On avait mis tout le monde d'accord. Tout le monde était d'accord. Le quartier, le comité de quartier, l'orchestre, bien évidemment. Et puis, au moment de concrétiser cela, c'est-à-dire au moment de s'engager financièrement, l'État nous a lâchés. Et donc, c'est un projet qui n'a pas pu voir le jour. Je le regrette beaucoup. Depuis, l'État a décidé de donner un nouveau destin à l'ex-prison Saint-Michel en faisant une cité judiciaire. Ce que je trouve pertinent par ailleurs, parce que je me bats depuis toujours pour que à Toulouse, on ait davantage de policiers nationaux, mais aussi davantage de magistrats. Pour autant, je souhaite et je crois utile que nous ayons un auditorium. La halle au grain, j'y suis attaché, comme tous les Toulousains, et nous allons continuer à améliorer la halle au grain. Nous avons fait des travaux déjà d'amélioration ces dernières années, donc on va continuer. Pour autant, je pense qu'un auditorium, d'un point de vue qualité du son, ça n'a rien à voir. Et l'Orchestre National du Capitole a atteint un tel degré de valeur, de reconnaissance, de rayonnement, qu'il mérite et il lui faut un auditorium. Simplement, voilà, il ne suffit pas que le maire le veuille, ça serait trop facile. Il faut qu'on arrive à trouver un cofinancement. Et c'est vrai qu'en ce moment, les finances de l'État, tout le monde le sait, sont dans une situation dramatique, à un point qu'on n'a jamais connu. Et à l'heure où nous parlons, nous avons commencé l'année 2025 sans que l'État ait un budget, chose qui ne s'est jamais vue. Donc forcément, je ne suis pas très optimiste pour les années qui viennent. Pour autant, je n'abandonne pas cette idée. En tout cas, ma conviction, elle est intacte. Simplement, j'espère qu'à un moment, nous serons capables de faire les efforts de redressement des finances publiques que tous les gouvernements depuis 50 ans ont été incapables de faire, voilà, qu'on aura le courage de prendre des mesures pour ça, que ça rendra possible ce projet et qu'à partir de là, on pourra chercher un nouveau lieu. Parce qu'il faut à la fois, c'est la double difficulté d'un tel projet qui est, chacun le comprend, exceptionnel. On n'est pas sur un projet de gestion courante. Il faut à la fois un budget considérable qui ne peut être que partenarial et un lieu qui soit un lieu adapté.
Alors pour terminer cette émission et pour prolonger un peu le sujet des inquiétudes, le secteur culturel est inquiet aujourd'hui avec la baisse des dotations de l'État et donc de l'engagement des collectivités en général. Et là, je ne parle pas que des métropoles, des mairies, c'est aussi les conseils départementaux, les régions. Qu'est-ce que vous avez annoncé aux acteurs culturels de la métropole toulousaine pour l'année 2025? Comment va évoluer votre soutien financier dans ce domaine?
Alors effectivement, il faut l'expliquer parce que je crois que les citoyens ne sont pas forcément très informés sur la manière dont on bâtit un budget d'une collectivité. Dans les ressources d'une collectivité, il y a une part qui vient de l'État. Et l'État, aujourd'hui, est en faillite, comme le disait François Fillon à une certaine époque. Donc l'État n'a pas été capable de voter son propre budget. Or, il y a quelques mois, le gouvernement de Michel Barnier avait annoncé une ponction financière record dans nos budgets, à tel point que pour nous, à Toulouse, que ce soit le budget de la ville ou celui de la métropole, ça représentait un manque à gagner de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros qui disparaissent au début d'une année, alors que nous sommes en plein élan pour des chantiers, chacun le voit, dans de multiples domaines. C'est quelque chose de très très difficilement soutenable. Alors, évidemment, Michel Barnier n'est plus Premier ministre. Pour autant, le gouvernement nouveau, sous l'autorité de François Bayrou, a annoncé très logiquement qu'il allait préparer un nouveau budget et que celui-ci serait adopté d'ici la mi-février. Et donc, aujourd'hui, sur ce budget, on ne connaît rien. Mais ce que je crois, c'est qu'il serait naïf de penser qu'aucun effort financier ne nous soit demandé. Simplement, à l'heure qui est, personne ne sait à quelle hauteur nous allons être appelés à contribuer. Donc, nous avons pris des mesures de prudence à la fin de l'année 2024 et nous avons décidé, pour cette année 2025, de verser aux associations et aux structures qu'on subventionne, notamment dans le domaine culturel, de verser 60% de ce que nous leur avions versé en 2024. Et ensuite, on va voir ce qui va se passer. Et si jamais on était épargné, je crois au miracle, donc on peut espérer ce miracle. Bon, si on était épargné, à ce moment-là, effectivement, nous prendrons des décisions à la mi-2025 qui permettront de retrouver une aide peu ou prou
équivalente
à 2024. Moi, ce que j'ai demandé à mes collègues élus chargés de la culture, c'est de regarder avec chaque structure subventionnée quel était le besoin réel, quelle était la situation financière, parce que c'est très très varié. Vous avez des structures qui ont des réserves financières. Vous en avez d'autres qui n'en ont pas. Vous avez des structures qui ont un budget rigidifié par des salaires ou des dépenses de fonctionnement. Vous en avez d'autres qui ont des budgets beaucoup plus souples parce qu'ils font davantage de projets. En 2025, au lieu de faire, je dis n'importe quoi, 5 projets, ils en feront 3 ou 4 seulement. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a toute une diversité de situations qu'il faut apprécier au cas par cas. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'il y ait un coup de rabot, je dirais, général, identique, sans réflexion et sans dialogue. Personne. Et donc, mes collègues ont plusieurs mois pour regarder de manière objective la situation de chaque structure subventionnée, de dialoguer avec elle et de regarder quels sont les besoins réels et les efforts qui peuvent être faits. Voilà, parce que il faut être aussi réaliste et tenir un langage de vérité. Si l'État a un budget en 2025 et à travers ce budget fait un effort pour redresser les comptes ne seront pas redressés totalement en 2025. Ça ne sera que le début. Et on sait bien que cet effort-là, si on veut que ce soit efficace, il va durer pendant plusieurs années. Donc il faut que l'on ait une réflexion de fond, certes à court terme, pour boucler le budget 2025, mais en réalité sur les années à venir, pour qu'on rende soutenable nos différents choix budgétaires. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors je crois savoir quand même qu'il est assez reconnu le fait que nous avons bien géré depuis 10 ans, donc cette gestion saine de nos finances va nous permettre de faire face, on ne va pas s'effondrer, on ne va pas arrêter le service public. On ne va pas licencier nos agents de la collectivité pour des raisons financières tenant au budget, certes. Pour autant, on devra faire des efforts. On devra s'adapter, on devra faire des économies. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on les fasse de manière intelligente, par une réflexion et par du dialogue.
Des économies qui vont concerner tout le monde, y compris les acteurs culturels. Nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de l'année 2025. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Jean-Luc Moudinc, et de nous avoir présenté le bilan de vos 10 ans d'action pour la culture à Toulouse. Je pense que nos auditeurs auront appris un certain nombre de choses lors de cette émission, y compris concernant l'avenir. On vient d'en parler. Je rappelle que l'action et la politique culturelle de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole peuvent être consultées sur le site www.métropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.